Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Joyeuse Pâques à tous. Christos Anesti. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Nous sommes encore dans le temps pascal. Je pense que vous le vivez encore comme ça un petit peu. Vous, dans l'église.
Ça commence à faire loin, oui.
Ça commence à faire loin. Ah, bah, 2000 ans, de toute façon.
Mais même la fête de Pâques, bon, il y a déjà plusieurs dimanches de passé. Donc en fait, c'est vrai qu'on a. On est un peu dans la perspective de Pentecôte, peut-être, ou de...
Bien, alors, effectivement, les disciples d'Emmaüs, c'est notre avant-dernière étape sur ce chemin aussi d'Emmaüs, parce que c'est une foi en chemin qui est la nôtre, et ce n'est pas un slogan de le dire. Il y a, c'est certain, dans cet évangile où on voit Jésus qui apparaît en chemin, c'est pas une apparition statique, hein. C'est pas lourde, hein. C'est pas... en 16-9e, c'est une apparition en chemin, ambulante, ambulatoire, et c'est aussi vrai de nos vies, c'est vrai de notre foi, c'est vrai de ce parcours sur la foi de cette année. Voilà, donc l'avant-dernière étape nous fait lire un texte que vous connaissez bien, je pense, dans la traduction œcuménique de la Bible, vous l'avez sous les yeux, et ce texte suit immédiatement l'évangile que l'on lit le jour de Pâques, et en plus cette année nous l'avons lu dans cette traduction de l'évangile de Luc, hein, dans la tradition du lectionnaire catholique, nous avons un cycle triennal, et cette année nous avons entendu l'annonce de la Pâque et la visite au tombeau dans l'évangile de Luc, donc précisément le texte qui précède le texte que vous avez sous les yeux. Et on a vu ces femmes, ces trois femmes au tombeau qui entendent au plus profond d'elles-mêmes, grâce à ces deux messagers, le mot ange veut dire messager, elles entendent au plus profond de leur vie cette phrase étonnante, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Alors, si elles l'entendent et si l'évangile le dit avec force, cette phrase aussi, dont on peut faire un slogan, je le sais bien. Mais si elles l'entendent au plus profond d'elles-mêmes, et si depuis 2000 ans, cette parole nous est adressée, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant », c'est probablement parce que c'est ce que nous faisons sans cesse. Notre tendance naturelle, notre pente spontanée, c'est de chercher la nouveauté radicale dans le connu, dans le trop connu. Et précisément, c'est ça, chercher parmi les morts, c'est-à-dire chercher l'évangile, chercher la vie, chercher la source de notre joie, de notre paix véritable, pas une paix comme le monde la donne, mais une paix comme seul le Christ la donne, comme seul Dieu la donne. Nous avons tendance à la chercher précisément, soit dans la poussière des livres, des enquêtes, de l'archéologie, de nos schémas culturels, de déterminisme. Nous sommes tous un peu des scientistes, des positivistes. Alors on cherche à travers des déterminismes biologiques, culturels, sociologiques, psychologiques. On essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que cette résurrection à travers nos schémas mentaux. On fait tout ça. Et voilà que ces femmes nous disent, ben nous, ce qu'on a reçu, entendu, ce qui a ébranlé notre vie dans cette aube de Pâques, c'est précisément cette injonction, c'est pas du côté des morts, des schémas périmés, des choses qui ne reviennent plus, des choses ressassées, c'est pas dans les idéologies, c'est pas dans les slogans, c'est pas dans la publicité, c'est pas dans tous les instruments, les outils pour porter l'évangile, c'est pas dans les démonstrations de force, c'est pas dans la propagande que vous allez trouver Jésus le vivant. Voilà. Et il y a ensuite ce récit absolument incroyable où ces deux disciples qui ne sont pas des apôtres, bien que le texte soit très ambigu, on ne connaît pas leur nom à part l'un d'entre eux, mais on dit qu'ils appartiennent à ce groupe des apôtres, c'est-à-dire les disciples très proches des apôtres. Alors apôtres, nous bien sûr on en fait un terme technique, les apôtres ça appartient au vocabulaire religieux, mais le mot n'est pas religieux, ça veut dire simplement les envoyés, ceux qui ont été envoyés par Jésus. Ça veut dire que Jésus, dans la manière dont il comprend sa propre existence, sa propre mission sur Terre, lui qui est envoyé, lui qui est l'apôtre par excellence, le prophète par excellence et l'apôtre par excellence, il en envoie d'autres. Donc il faut que ça circule, il faut que ça bouge. Donc parmi ces envoyés, parmi ces 11, il y a un groupe d'amis et ces deux disciples d'Emmaüs font partie de ces gens-là. Et on les voit qui quittent Jérusalem d'ailleurs, qui était le théâtre de tous ces événements. Jérusalem, c'est la grande ville, c'est tout sauf le lieu de l'anonymat. En plus, vous allez le voir, ils disent bien que les événements ont été publics, tout le monde le savait, sauf justement ce type qu'ils croisent, qui n'a pas l'air de connaître les événements. Et Jérusalem, c'est le lieu, évidemment, où tout se fait sous les projecteurs, sous les feux de la rampe. Et eux, tout d'un coup, ils quittent ce théâtre pour retourner un peu à l'obscurité, parce que c'est Emmaüs, on ne sait pas trop où c'est, à vrai dire. Hein. C'est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, on dit que c'est à bout gauche ou peu importe, mais il retourne une forme d'anonymat. C'est une expérience qu'on fait quelquefois, puisque nous sommes peut-être tous parisiens, quand on se retrouve dans un endroit qui est un peu moins scruté par l'actualité, moins dans la perspective, moins sous les sunlight. Et du coup, on fait cette expérience justement. Que font ces disciples qui cherchent à quitter, peut-être par peur, mais qui cherchent à quitter le lieu de leur déception, de leur désillusion, de leur désenchantement. On peut penser d'ailleurs à Judas, qui faisait probablement partie de ces gens, qui étaient des déçus de la délivrance d'Israël. On en reparlera puisqu'on va commenter le texte. Donc voilà, donc je pense, et Marc et moi on a pensé que... Évidemment, pour une année et un parcours sur la foi, ce texte est fondamental, puisque précisément, ils le reconnaissent au moment où ils ne le voient plus. C'est-à-dire que tant qu'ils le voient, tant que les yeux de la chair, tant que les yeux du vieil homme, tant que les yeux du monde l'ont sous les yeux, précisément, l'ont devant eux, ils ne le reconnaissent pas. Et quand ils le reconnaissent, ils ne le voient plus. Alors, je crois que pour la foi... C'est extraordinaire parce que c'est le renversement absolu, c'est le paradoxe, c'est absolument magnifique. Et évidemment, il y a ce moment de la fraction du pain, qui pour un disciple est un impératif. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Rompre le pain après avoir partagé les Écritures, c'est là qu'il se fait reconnaître, bien sûr. Ça ne peut pas être ailleurs. Donc les gens qui disent que c'est ailleurs, que c'est, qu'il n'y a pas besoin du culte ou d'un minimum de participation communautaire, bah peut-être qu'ils ratent justement ce moment de la fraction du pain. Voilà.
Alors ça...
Et bienvenue à toi.
Oui, donc merci beaucoup. Et c'est une joie de se retrouver ici à Saint-Eustache. Là, effectivement, bon, je dirais à contrario, parce qu'on est là pour dialoguer, mais là, c'est vrai qu'eux le reconnaissent dans la fraction du pain après la méditation des Écritures, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, ça peut être, on pourrait dire que c'est un mode, le mode... oui, ce sens, c'est clairement liturgique, parce que la fraction du pain, comme apôtre, tu disais que c'était un terme technique. C'est devenu un terme technique, même si ce serait un terme banal, c'est... c'est l'ambassadeur, c'est l'envoyé, quoi. C'est tout à fait, c'est un terme, c'est une fonction, c'est pas un titre. Ben c'est pareil pour fraction du pain, c'est clairement, ça désigne clairement un acte liturgique, c'est-à-dire en fait une sorte de repas de paroisse qui était fait vraiment, on le voit hein, dans les actes des apôtres, dans les lettres aux Corinthiens, mais qui avait quand même un côté liturgique, qui avait déjà un petit peu quelque chose comme ce qu'on appelle la communion, l'Eucharistie ou la Sainte Cène, en fait, qui était vraiment Donc d'accord, ces deux disciples reconnaissent Jésus vraiment par la liturgie, mais les femmes non, et puis d'autres non. Donc je crois qu'effectivement ça montre les cheminements divers qui peuvent arriver à chacun. Pour un, ça sera la liturgie, la religion, le culte, le rite, le sacrement va être vraiment une aide décisive. Pour un autre, c'est pas son truc, ça pourra faire écran. Comme quoi les modèles, on est tous dans des fonctionnements très différents. Et l'apôtre Paul, donc dans cette même tradition lucanienne finalement, alors lui c'est carrément sans le rite, sans la religion ni rien d'autre, puisqu'il partait persécuter les chrétiens, et c'est sur ce chemin qu'il a quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience mystique en fait. et il se considère lui-même comme le dernier témoin du Christ ressuscité. Mais sinon, ce qui m'a bien intéressé, c'est une histoire de la résurrection, voilà, en chemin, et c'est l'apparition en chemin. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que les femmes, quand elles vont au tombeau, le tombeau, c'est le mémorial, c'est la mémoire, en fait. Donc c'est la mémoire des choses anciennes. Et puis eux aussi, ils ressassent les choses anciennes, une espérance déçue. Ils sont en chemin, ils vont devoir, on va le lire ce texte, hein, mais renouveler leur lecture de la Bible, en fait, changer de lecture de la Bible. Ils vont changer de christologie, finalement. Ils vont changer de notion, de conception du Christ. Ils le reconnaissent difficilement et ils vont finalement arriver à saisir ce que Marc appelle, pour ces deux hommes, un Christ qui apparaît sous une autre forme, en fait. Donc, ils changent de conception du Christ. Ils avaient le Jésus de l'histoire, finalement, sous les yeux. Il faut qu'il passe à un mode des présences qui est une autre forme, qui est celle du Christ vivant pour toujours. Et donc là, il y a un changement de christologie après le changement d'écriture, et puis il y a un changement de théologie aussi, bien sûr. Ils s'éloignaient de Dieu déçus et ils vont revenir, se convertir dans un sens, revenir vers Jérusalem, donc vers, comme tu disais, je veux dire, la source de la paix, vers quelque chose qui est une paix profonde, une paix vraie, quoi. Et puis peut-être aussi revenir vers les autres autrement, alors que les autres apôtres, on le voit, ils restent figés à Jérusalem, comme stupéfaits de cette absence, de ce drame, de cet échec, de leur espérance. Ils restent comme ça, figés de stupeur, d'effroi, de peur, et eux, ils quittent, ils s'en vont, mais ils vont revenir autrement vers les compagnons, vers les disciples, vers cette assemblée. Donc oui, il y a tout un cheminement qui est fait, et je crois que c'est intéressant parce que le Christ ressuscité, c'est d'abord un Christ qui est ressuscitant, c'est-à-dire c'est le Christ de la foi, c'est celui qui nous fait passer de la mort à la vie, et c'est bien ça qu'on voit mis en récit ici. Et à mon avis, ce récit, bon, il est fait pour qu'on le vive, bien entendu, et ce Clopas ou Cléopas, bon, peut-être que c'est la... Peut-être que c'est un oncle de Jésus, parfois, non? On dit que parfois, enfin, je ne sais pas, il y a un Clopas qui apparaît dans Jean, je ne sais pas quoi. Alors est-ce que c'est le même, pas le même, ce n'est pas très important. En tout cas, celui qui est anonyme, souvent c'est le cas dans les Écritures, quand il y a un morceau qui manque, c'est souvent la place du lecteur, si vous voulez. Donc c'est notre place, en fait. Le texte nous met, Copins Cléopas, marchant déçu de Dieu, déçu du Christ, déçu de la foi, déçu de la religion, et s'éloignant comme ça de cette source ancienne, disant bon, écoutez, c'est bon, maintenant je retourne à mes affaires, en fait. Et donc on est mis dans le cœur même de ce récit pour qu'on puisse nous inviter à le vivre finalement. Et ça, je trouve que c'est sympathique parce que c'est un des plus beaux textes de la Bible à mon avis. Alors tu disais Emmaüs. Emmaüs, on ne sait pas où c'est, on sait que ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'Emmaüs. Sauf que... alors bon, c'est vrai que dans les cartes bibliques, on marque un Emmaüs, parce qu'on sait que c'est à 10 km, donc on en invente un, si vous voulez, mais il n'y a aucune trace archéologique, aucun... Dans l'Ancien Testament, il n'y a rien. Et donc, il semble... Enfin, moi, ce que j'ai vu de plus convaincant, si vous voulez, c'est que c'est dans une variante du codex de Bèze, vous savez qu'il y a un texte, un manuscrit de l'écriture assez original par rapport aux autres. On dit que c'est la tradition occidentale. Il y a des variantes fort intéressantes et probablement assez anciennes, en fait. Et donc, il met, c'est pas Emmaüs, il met Oulamlouz. Or, Oulamlouz, ça, c'est par contre, on le connaît, Oulamlouz, c'est une citation de l'échelle de Jacob, si vous voulez. Il y a Jacob qui dit « Ce lieu maintenant va s'appeler Bethel » et il s'appelait Oulamlouz, c'est-à-dire avant il s'appelait Louz. Auparavant, il s'appelait auparavant Louz. Auparavant Louz, c'est Oulamlouz en hébreu, et donc Oulamaus, voilà. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc ça me paraît assez convaincant, c'est-à-dire que... mais là toujours, ça interroge, si vous voulez, la vérité de ces textes. C'est pas un compte-rendu narratif de ce qui s'est passé littéralement, physiquement. Moi, c'est tout à fait vraisemblable qu'il y ait eu des gens déçus qui s'en vont, qui retournent chez eux, et puis qui, en chemin, tout d'un coup, percute, j'allais dire, vraiment cette expérience de foi qu'est la rencontre avec le Christ ressuscité, reviennent vers les disciples et tout ça se noue. Mais ils ont inventé, à mon avis, le terme d'Emmaüs pour dire, en fait, ce qu'on revit, c'est ce qui était prédit déjà, ou c'était quelque chose qui est de l'ordre de ce Jacob, si vous voulez, qui a un combat avec l'ange, et finalement vient dire, l'Éternel, le Seigneur était là, et je ne le savais pas, si vous voulez, ce combat jusqu'à l'aube, dans le noir, pour vraiment saisir cette présence de Dieu, et arracher sa bénédiction, si vous voulez. Alors moi, il me semble que le Emmaüs, c'est juste pour mettre en arrière-fond ce récit, cette expérience de Jacob, expérience très fondatrice. Et si on fait attention, on pourra le faire, chemin faisant, peut-être avec la lecture, retrouver des points qui rappellent cette histoire de Jacob qui... lui aussi mort de trouille de retourner vers son frère, c'est à ce moment-là, je pense, où c'est le il faudrait que je recherche, si c'est l'aller ou si c'est le retour, parce qu'il y a deux nuits de Jacob, vous savez, il y a une nuit avec l'échelle et la nuit avec le combat avec l'ange. Moi, je pense que c'est plus le combat avec l'ange.
Le combat, c'est après.
Donc, c'est le deuxième, quand il est mort de peur de retourner vers son frère, et il a cette nuit d'angoisse, finalement, qui pourrait bien aller, finalement, avec ça, hein, se dire, voilà. Et puis bon, la nuit tombe, elle est là aussi, voilà, donc et puis la réconciliation avec les frères aussi, ce Dieu inconnu ce combat avec l'écriture, voilà. Mais bon, peut-être qu'il faut lire ce texte, oui. Si vous voulez, pour
alors qui veut, on va le lire par tronçon, parce que de toute façon, comme vous savez à peu près comment se termine l'histoire, on va le lire par bloc. Alors, qui...
Ah,
très bien, monsieur Hiron. Merci.
Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entra dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Voilà. Donc,
on peut commencer comme ça.
Le travail de conversion qui s'opère avec ce Christ pédagogue, au fond. Parce qu'il y a cette dimension d'enseignement, quand même. Hein. C'est intéressant parce que ce texte va prendre une valeur un peu normative ensuite
pour la manière d'annoncer l'évangile. Et quand on lit les Actes des apôtres, vous le savez, l'auteur de l'évangile de Luc et l'auteur des Actes des apôtres est le même. Quand on dit auteur dans l'Antiquité, c'est celui qui autorise, hein, celui qui donne l'auctoritas, c'est-à-dire qui garantit la crédibilité, la véracité. Donc quand on dit un auteur, c'est pas un écrivain avec la muse ou l'Esprit Saint qui serait une sorte de super muse, hein. C'est une communauté d'écrivains qui par écrit, au terme d'un processus rédactionnel assez complexe, souvent couche des traditions qui viennent de transmissions orales, de témoignages, etc. Et le travail final, le lifting du texte, est fait peut-être par un ou deux scribes ou des gens qui savent écrire, puisque le fait d'écrire est un métier dans l'Antiquité. On ne sait pas, par exemple, si Jésus savait écrire, ce qui n'en fait pas un illettré. Hein. Jésus savait lire, comme tout juif, il a fait sa bar mitzvah, il sait lire, mais il ne sait pas forcément écrire, parce que écrire, c'était un métier. Hein. Comme pendant des décennies, la saisie informatique était un métier, donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui a été un peu le secrétaire du groupe, ou qui, avec l'aval de cette tradition lucanienne, va peaufiner, va toiletter le texte. Bien. Et dans les Actes des apôtres, on voit bien que le modèle d'éclaircissement de la révélation est un modèle souvent d'enseignement, comme ça. Et c'est pas seulement les apôtres qui, de leur propre fait, décident d'élaborer un discours apologétique ou un discours pour légitimer leur foi et une exégèse qui servirait leur business, c'est pas ça du tout. Ils s'autorisent de Jésus lui-même. C'est lui-même, Jésus, qui fait comme ça, qui enseigne, qui catéchise, qui ouvre les Écritures, qui montre que la clé herméneutique des Écritures, le point focal, peut-être aveugle justement, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est à la fois le centre, la fin, il est à la fois dedans, un peu à l'extérieur, il conduit les Écritures plus loin qu'elles-mêmes. Mais voilà, donc c'est quand même Jésus qui initie ce modèle que les catéchistes connaissent. Au fond, ce que nous faisons quand nous enseignons, c'est lorsque nous expliquons, l'enseignement n'est pas seulement une attitude de cuistre ou pédante, de domination, mais c'est un engendrement. C'est une manière d'enfanter par le langage à la vérité. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande du chemin, justement. Ça ne se fait pas comme ça dans une rencontre statique, mais au contraire, il y a tout ce dynamisme de l'approche du sens. Et on voit bien que c'est un sens, une signification, qui n'est pas seulement une gratification intellectuelle. Hein, leur cœur est embrasé. Comme dans l'expérience amoureuse, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment ça. C'est pas une métaphore, juste une image, c'est pas une fleur de rhétorique. Quand on dit leur cœur était brûlant, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? C'est bien, c'est là, c'est le plexus, hein, c'est le diaphragme, le plexus solaire, hein, qui se dilate, qui chauffe, comme dans certaines expériences fortes de la vie. Quand on comprend quelque chose sur soi, quand on est amoureux, quand on vit une expérience esthétique forte ou sportive. Donc voilà. Et ce qui prouve bien que l'enseignement de Jésus n'est pas seulement intellectuel, c'est pas simplement l'exégèse de la Bible, une exégèse universitaire, c'est bien quelque chose d'existentiel qui va réveiller en eux une source qui s'est un peu tarie à force d'amertume, de peur, de déception, etc. Et ça, c'est extraordinaire, mais ils ne le reconnaissent pas encore à ce moment-là. Mais on a envie de dire que leur corps, déjà, expérimente quelque chose de la rencontre, hein. Il y a un ébranlement affectif. C'est un texte très affectif, hein. On nous dit qu'ils avaient l'air sombre au début, donc ils connaissent la tristesse, hein, les passions négatives, les passions de mort. Spinoza, hein, appelle ça les passions tristes, qui font l'expérience vraiment de la dépression, quoi. Et ensuite il y a cette expérience pascale qu'il relate. Il dit: nous avons été bouleversés par le récit des femmes. Alors bouleversés aussi, c'est vrai que nous, en français, quelquefois, on est souvent dans l'hyperbole, et on est toujours bouleversé, tout est génial, tout est... Enfin, le mot en grec est assez fort, quand bouleversé, c'est-à-dire chamboulé complètement. Ils ont été chamboulés par un récit auquel ils ne croient pas en plus, parce qu'ils ne croient pas les femmes. Enfin, ils sont quand même bouleversés parce que ça touche en eux quelque chose qui va au-delà de leur propre incrédulité. Ça, c'est beau. Il y a des gens comme ça, ils sont incrédules, leur tête, leur cerveau est incrédule, mais ils arrivent à être touchés. On rencontre souvent des gens comme ça, ils sont bouleversés par une œuvre d'art sur la vie du Christ, par exemple, mais en même temps, leur raison est tenue en laisse, est tenue en respect, mais en même temps, voilà, ils n'aspirent qu'au fond, et c'est ça. Eux ont déjà été bouleversés par quelque chose auquel ils ne donnent pas leur adhésion, leur foi. Puis ensuite, voilà, il y a leur cœur qui est brûlant. Donc tout ça, c'est magnifique, hein, on aimerait être à leur place.
Alors ce qui est intéressant, c'est que là tu dis, effectivement, tu parles d'exégèse et puis après d'ouverture du cœur, mais c'est exactement les termes grecs en fait qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'il y a deux fois, le Christ leur expliquait les Écritures. Je ne sais pas exactement pour retrouver le passage. Au début, il leur explique les Écritures et à la fin, il dit « Est-ce que notre cœur n'était pas brûlant quand, tandis qu'il nous expliquait les Écritures ?» Le premier expliqué, c'était littéralement, c'est exégèse. C'est-à-dire, c'est un enseignement exégétique, un enseignement de l'interprétation. Oui, là, on est dans l'intellect quand même. Mais à la fin, l'effet qui est produit, c'est littéralement une ouverture. C'est littéralement un verbe qui veut dire « ouvrir ». Donc, pendant qu'il nous ouvrait les Écritures. Il y a le passage de l'exégèse à l'ouverture des Écritures, du sens des Écritures qui fait brûler le cœur. Et donc, c'est ce passage est assez finalement intéressant parce qu'il peut y avoir le détour au début. Ben c'est ce que nous faisons ce soir, si vous voulez. C'est quand même une étude scientifique, exégétique. On dit, ouais, mais tel verset, ça a été rédigé en longtemps par une communauté de disciples. Puis Emmaüs, Emmaüs n'existe pas, c'est une pour faire un parallèle avec un autre texte. Bon, alors au début, il y a peut-être cette aridité, si vous voulez. Au début, on se dit, mais ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. Mais il faut un temps de maturation, de cheminement, et puis d'ouverture du cœur. Moi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il leur explique, au début, ce qui le concerne, ou ce qui les concerne. Non, où est-ce que c'est ça? Voyons voir.
Oui, on n'a pas mis les... Voilà, mais à coup de pas, on a pas
et c'est en fait, c'est vrai que c'est pas très clair de savoir si ce qui le concerne Jésus ou ce qui les concerne chacun d'entre eux, si vous voulez. Mm-hmm. Et donc c'est un peu les deux, c'est-à-dire que l'Écriture c'est quelque chose qui nous concerne profondément et en faisant l'exégèse de l'Écriture, il s'agit de faire la propre exégèse de notre histoire, l'exégèse du Christ, faire le parallèle et finalement ça. Ben, ça fait son chemin en nous et peut y avoir donc quelque chose qui est de la conversion. Moi, ce que je relevais aussi, si vous voulez, c'est que Jésus lui-même les rejoignit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un cheminement qui est négatif, vous voyez. Ils sont déçus, ils s'en vont, ils quittent, ils s'éloignent de Jérusalem, donc ils s'éloignent d'une vraie recherche de foi. Et Jésus les rejoint dans ce mauvais chemin, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement, si j'attire l'attention là-dessus, c'est parce que j'ai été regarder l'histoire de Jacob. La bénédiction qui est donnée à Jacob quand il quitte Canaan, finalement, parce qu'il a fait un peu des choses difficiles avec son frère. Et la promesse qui lui est donnée, Dieu lui dit, « Je serai avec toi, finalement, et je t'accompagnerai sur ton chemin. » Et donc ça, il y a un retournement qui est intéressant, un changement de théologie. Plutôt qu'un Dieu qui nous donne une loi, finalement, en y disant « voilà ce que tu dois faire, voilà le chemin, suivez-le, si vous le suivez, vous serez dans la bénédiction, si vous écartez, vous tombez dans le trou avec des crocodiles. » Donc là, finalement, on met en acte le fait que, justement, quand ils s'éloignent, quand ils ont quitté l'espérance, quand ils sont attristés et sombres, eh bien Jésus-Christ les rejoint, ben ça s'appelle la grâce, si vous voulez. C'est Paul qui dit « là où le péché abonde, la grâce surabonde ». C'est justement quand on n'est pas en forme qu'on a d'autant plus besoin du Christ qui nous accompagne. Vous allez me dire, mais ce n'est pas la grâce, parce qu'en fait, c'est tandis qu'il parlait et discutait. Et là, c'est un peu pour ça aussi que c'est à ça que sert l'Église, dans un sens. Pour moi, si vous voulez, c'est le fait d'être plusieurs, de discuter, dans la pluralité des points de vue, justement, eh bien, il va pouvoir y avoir quelque chose qui fait choc, qui brise nos idoles, nos précompréhensions, comme tu disais, et qui fait place peut-être à quelque chose qui est de l'ordre du Christ plus facilement. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux ou au dedans d'eux. C'est, là aussi, il y a un jeu de mots. Eh bien, c'est un peu ce qui est mis en acte ici. Mais alors, si c'est la discussion et si c'est finalement l'Église qui provoque la présence du Christ, on pourrait se dire que c'est plus une grâce, parce qu'à ce moment-là, le Christ serait à la remorque de nos actes de religiosité, ce qui est un peu gênant au point de vue de la grâce. Alors, où est-ce qu'il est avant ? Eh bien, il est dans le « or », en fait, si vous voulez. Parce que ça, c'est pas hyper bien traduit, mais en grec, il y a marqué « et il advint ». Or ça, si vous voulez, c'est un marqueur, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, d'un, l'irruption d'une action de Dieu, en fait.
Egeneto.
Et en hébreu, c'est vayehi. Tout d'un coup, voilà. Et ça, c'est un marqueur, si vous voulez. C'est aussi clair que de dire, je sais pas moi, il y a un ange avec une lumière.
C'est l'événement.
C'est l'événement qui surgit. L'irruption qui surgit. C'est-à-dire, c'est pas dans la chaîne logique des événements, la causalité normale. Il y a une irruption de nouveau. Eh bien, il est caché dans ce petit or. C'est-à-dire, voilà, c'est Dieu qui intervient. Ils sont à la remorque comme ça, ils s'éloignent, et puis il y a un acte de Dieu qui arrive au milieu et qui va... qui les... mais on retrouve ça aussi, si vous voulez, dans l'Évangile, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis » et Dieu est bien comme ça. C'est-à-dire, voilà... Il aime même ses ennemis, il bénit ceux qu'il persécute, il fait du bien à ceux qui le maudissent. Mais on a quelque chose qui est en acte là, et ça je crois que ça peut motiver une grande confiance dans nos doutes, dans nos difficultés, et puis un encouragement peut-être, voilà, quand ça ne va pas hyper bien, bah, de discuter, et puis peut-être d'ouvrir les Écritures, je ne sais pas, et puis d'avoir... se laisser accompagner par quelque chose d'inconnu qui nous fait cheminer, peut-être.
Alors, sur la question de la grâce, oui, c'est intéressant parce que on peut se dire que Jésus est un peu sévère avec eux quand il leur dit « esprit sans intelligence, cœur lent à croire », comme si finalement ça devait reposer sur leur propre effort d'intelligence, leur cogitation, comme si finalement ils avaient dû... se mettre à leur bureau pour réfléchir et comprendre. En fait, quand même, dans le texte au début, on nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Ah oui, ça, c'est un mystère.
Et c'est une forme passive, donc empêchée par quelqu'un. Et en fait, ce genre de passif, on appelle ça le passif divin, quelquefois. C'est empêché, c'est comme ofter. Il se manifesta, on traduit toujours, il se donna à voir, mais en fait, il fut vu. Mais c'est très étrange, c'est passif.
Un passif théologique, oui.
Passif théologique. Et donc, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, on voit bien que ce n'est pas entièrement de leur faute. Alors, c'est un peu le langage là, de la mythologie grecque. On est un peu chez Ovide, là. On a l'impression qu'ils ont une sorte de voile. Et puis ensuite que ce voile va tomber, mais c'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire que pour pouvoir voir, pour pouvoir dépasser les yeux de la chair, pour que les yeux de la foi puissent s'exercer, alors évidemment on aimerait que les yeux de la foi et les yeux de la chair soient pas en contradiction totale, bien sûr, et dans nos vies c'est compliqué. Ici, c'est le renversement absolu parce que le texte est radical, l'expérience qu'ils vivent est radicale, et on voit bien que les yeux de la foi et les yeux de la chair sont presque en opposition totale. Et c'est ce que le récit veut nous suggérer. Mais enfin, quand même, ces yeux de la foi sont greffés à l'homme, sont donnés à l'homme par Dieu, en fait, et par grâce. Parce que c'est Dieu qui empêche de voir complètement, parce que... les yeux de la chair qu'il a donné dans son œuvre de création ne permettent pas l'accès à la lumière totale, à la gloire de celui qui chemine avec eux. Donc c'est compliqué ça, mais on voit bien que les yeux de la foi ne sont pas le produit d'un effort ou de bonnes œuvres, ou ne sont pas le produit d'une expérience de la nature, mais ces yeux de la foi cette foi est donnée gratuitement par Dieu. C'est ce qui est suggéré par le texte. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que s'ils avaient une vision totale, claire, comme ça, boum, du Christ, il n'y aurait pas ce cheminement, si vous voulez, il n'y aurait pas cette conversion, il n'y aurait pas ce questionnement. Et donc, sans cesse, si vous voulez, mais on le voit encore à la fin, c'est le cas de le dire, le Christ, il se montre et il se cache, si vous voulez, parce que sinon, ce serait invivable. Et Dieu, dans un sens, c'est pareil, si vous voulez. Ce texte fondamental de la brebis perdue, Jésus nous dit, en fait, le Christ se rend présent pour aller chercher la 1% des brebis qui est perdue. Et puis les 99 justes, il les laisse tranquilles et il s'efface. Donc il y a là, c'est une présence-absence de Dieu qui, je crois, qui est fondamentale pour notre cheminement. Quand le Christ dit, ça c'est dans l'évangile selon Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oui, si on avait Jésus qui était là quelque part, ça nous déresponsabiliserait complètement. Alors que là, on est appelé finalement par l'Esprit Saint, c'est-à-dire à être prophète nous-mêmes, plutôt qu'aller demander à Jésus ce qu'on devrait faire et penser. Et donc, c'est un peu ça, peut-être. Moi, je verrais aussi, si vous voulez, c'est que ils sont empêchés de le reconnaître parce que le Jésus de Nazareth, il n'est pas là, finalement. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth qui les accompagne, c'est le Christ vivant. Et ils sont dans la même situation que nous. Et nous sommes, ce disciple, on ne peut pas le voir. Nos yeux sont empêchés de le voir parce que Jésus, il ne va pas rentrer. Enfin, probablement, à mon avis, je ne pense pas qu'il va rentrer en tirant la porte. Et donc, par contre, il est à recevoir à l'intérieur de nous. Donc, nos yeux sont empêchés de le voir parce qu'il n'est pas là, Jésus de Nazareth, en chair et en os, avec sa robe et ses sandales. Mais il faut qu'on découvre, justement, dans un cheminement, un autre mode de présence du Christ. Il y a peut-être aussi le changement de christologie, ou de théologie. C'est vrai que Jésus, il dit à un aveugle, je crois, c'est ça, « Je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Ou alors il dit « Je m'exprime qu'en parabole, afin que ceux qui comprennent ne comprennent plus rien. » Non, il explique pourquoi il parle en parabole. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que si on donne un catéchisme hyper clair en disant « tu vas me faire comme ça, la prière le matin entre 7h et 7h15, et puis tu vas faire ceci, et puis tu vas faire cela, et tu vas croire ceci, tu vas croire cela », moi je veux dire, on est complètement infantilisé. Or, c'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas de nous mettre une paire de rails devant les pieds, devant les roulettes, et roule. Non, c'est de nous donner une lumière, et la lumière, ça veut dire qu'il faut voir avec ses yeux. Mais comme dit Jésus, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, parce qu'il est persuadé d'avoir déjà tout vu. Mais je crois qu'on est dans ce registre, en fait, si vous voulez. Dieu, il complexifie les modèles. Il dit, mais non, vous croyez que c'est super clair? Non, en fait, c'est hyper complexe. Je vais vous embrouiller le machin, vous allez voir. Vous ne comprendrez plus rien à ce que c'est que le Christ. Mais du coup, il y a une vraie recherche. Il y a une vraie recherche dans l'Écriture. Il y a un vrai cheminement. Il y a une vraie attente, reste avec nous. Le Christ dit non, il faut aller plus loin. Et puis bon, là encore, il rechute un petit peu. Il dit, tant pis, on campe là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, point, c'est tout. Le Christ, bonne patte, il dit, je reste. Vous voyez, et puis bon, il essaye de trouver encore une pédagogie, un truc, pour arriver à les amener à une compréhension supérieure. Mais pour tout ça, il faut brouiller les pistes. C'est indispensable, c'est comme ça, je crois.
Mais du coup, en t'entendant, je comprends mieux, effectivement, l'ironie de Jésus. Vous savez, on parle de l'ironie socratique dans les dialogues de Platon. Et ironeia, en grec, le mot ironie, ça veut dire questionnement. C'est le fait de questionner. L'ironie socratique, c'est ça. C'est de pousser les choses. Socrate sait très bien où il veut mener son disciple. Il sait très bien, il manipule pas, parce que c'est au disciple de faire l'expérience. Et c'est ça la maïotique, c'est l'accouchement, c'est le disciple qui doit découvrir la vérité par lui-même. Et celui qui pratique l'ironie manipule au début, mais ensuite c'est pour libérer justement des puissances qui sont inconnues du disciple. Et de fait ici, c'est l'attitude de Jésus. Parce que par trois fois, quand même, il est dans l'ironie. Alors, ce n'est pas l'ironie socratique, c'est l'ironie christique, si vous voulez. Mais il dit, il approche d'eux, il dit « Quels sont ces propos que vous échangez ?» Il se doute un peu. Puis ensuite, il lui dit « Ah, mais tu sais pas, t'as pas su, comme on dit. » À Brest, on dit ça. Quand j'étais enfant, on disait ça toujours pour faire courir les pires rumeurs, c'était « t'as pas su ». Alors, donc, en fait, c'est un peu ça, t'as pas su. Et lui répond « Quoi donc ?» Évidemment, il veut les pousser à raconter. Il sait très bien. Ça, là, c'est le sommet de l'ironie, puisque c'est lui-même l'objet du récit. Et après, comme on va le voir dans deux minutes, il fait semblant d'aller plus loin. Il est un peu comédien. Hein, au moment où ils vont se séparer, pour qu'il puisse avoir l'initiative de lui dire « Ah ben non, reste avec nous », il fait mine. En grec, on dit « il projette d'aller plus loin ». Il fait semblant d'aller plus loin. Donc, quand même, par trois fois, il joue un peu au naïf, il joue un peu la comédie. Et ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, dans la maïotique socratique, dans l'accouchement des esprits, le disciple découvre que c'est en lui-même, au terme d'une expérience, Platon dit, de réminiscence, c'est-à-dire de science infuse, on découvre que la vérité est en nous. Mais souvent, les dialogues de Platon, si vous connaissez un petit peu, ça finit un peu en queue de poisson, c'est-à-dire que, bon, une fois qu'on a découvert que tel théorème était vrai ou que tel questionnement est une aporie, en fait, parce que c'est souvent ça, on découvre qu'on est dans une aporie et puis bon, ça s'arrête là et on dit tiens, il fait beau, on prolonge la promenade et voilà. Ici, c'est autre chose quand même, c'est-à-dire que ça finit pas en queue de poisson, ça finit sur une expérience mystique qui défie d'ailleurs le langage. Alors si vous êtes amateur d'art, vous savez peut-être qu'à Saint-Eustache il y a un tableau de Rubens, un Rubens de jeunesse, les disciples d'Emmaüs, précisément sur le moment où le récit se termine, c'est-à-dire le moment où ils le reconnaissent et le moment où il disparaît. Rassurez-vous, on voit quand même Jésus, c'est juste une seconde avant, c'est comme pour le Big Bang. C'est... Voilà. Et alors, si vous ne connaissez pas ce tableau, dont George Nicholson doute, mais il est bien le seul, que ce soit un vrai Rubens, c'est un Rubens de jeunesse, mais on pense, par les historiens d'art, oui, pensent que c'est un vrai Rubens, il est très très beau. Et ce qui a fasciné, bien sûr, les peintres dans l'iconographie occidentale, c'est ce moment où l'ironie christique est à son terme et où ils le reconnaissent. Précisément, après le partage de la parole, après la fraction du pain, tac, voilà. Ce qui était visible aux yeux de la chair devient invisible aux yeux de la chair, mais ce qui était invisible aux yeux de la foi devient visible aux yeux de la foi. Il y a une inversion. C'est le moment, crucial, hein, au sens étymologique. Crucial, c'est la croix. Hein, c'est, les choses se croisent. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a bien une pédagogie de Jésus pour que le disciple découvre que la vérité est en lui. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Qu'au fond, cette vérité, elle n'est pas l'objet d'une catéchèse raffinée qui, avec un parcours, comme disent justement les catéchètes professionnels, au terme d'un parcours magnifique qui brasserait la Torah, les psaumes, les prophètes, voilà, la lumière pourrait se faire dans l'intellect des disciples. Non, c'est les disciples en eux-mêmes qui ont en eux la source de la connaissance réelle de Dieu et de Jésus-Christ, qui est la foi. Et cette foi, comme pour chacun de nous d'ailleurs, parce qu'on est tous en berlificoté, tordus dans nos rapports à la foi, parce que c'est un combat. Hein. On va le voir d'ailleurs un peu plus loin. On lira peut-être pas jusqu'au bout le texte parce que je suis allé jusqu'à l'ascension, mais on voit bien que les disciples, même face à une apparition, sont dans des objections intérieures. On dit toujours des doutes, mais en fait en grec c'est des objections, c'est-à-dire qu'on est là, on raffine, on dialectise, etc. Eh bien Jésus ne fait pas fi de ça, mais c'est à partir de ça, à partir de leur déception humaine, à partir de leur messianisme déçu, à partir de leur expérience de fatigue, leur expérience d'inquiétude aussi, hein, reste avec nous, le soir tombe, etc., hein, comme nous, là, il y a une peur face à la nuit qui approche, ils sont bien avec lui, et c'est à partir de tout ça que Jésus touchent la source qui est en eux, qui est la foi. Et au terme de cette ironie christique, il accouche leur esprit d'une vérité nouvelle qui est complètement folle, hein, qui est celle de Pâques et celle dont nous vivons.
On peut peut-être lire après.
On peut peut-être lire après ou... est-ce que je sais pas très bien en fait parce que qu'est-ce que ça leur apporte finalement ce dialogue avec Jésus finalement quel est le déplacement qui est provoqué par ce dialogue avec Jésus au cours de ce cheminement. Au début ils attendaient un prophète puissant finalement en action et en parole devant Dieu et devant le peuple. C'est assez vrai quand même dans l'évangile, ça ressemble quand même ce que Jésus opère, c'est quand même quelque chose de cet ordre là quand même. Un prophète puissant en action et en parole. Moi, je trouve ça assez beau quand même. Mais sauf qu'il est plus que ça, en fait, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, volontiers, Jésus, le problème, c'est que la foi en Jésus, il y a un peu deux camps aujourd'hui, et peut-être que les deux camps sont trop extrêmes. Il y a ceux qui considèrent, mais on a le droit, hein, je veux dire, on n'est pas, justement, hein, on n'est pas surtout sur le même moule, mais... Il y a des gens qui considèrent Jésus comme un prophète puissant, en fait. Mm-hmm. C'est un Jésus qui est un Jésus très humain, finalement, très à la fois puissant. Donc, il a effectivement, historiquement, on peut dire que ça, c'est sûr, en tout cas. C'est au moins ça, Jésus de Nazareth. C'est un prophète, il a enseigné, il a prophétisé, il a dit des choses au nom de Dieu, inspiré par Dieu. Et puis, puissant, certainement, parce que des miracles physiques, moi, je crois que c'est assez vraisemblable, mais qu'importe, il a au moins cette puissance-là qui l'a fait basculer l'histoire. Ça, c'est, à mon avis, c'est indubitable. Donc, prophète puissant, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Donc, c'est la première option, hein, Jésus très humain, très historique. Et la deuxième option, peut-être que c'est celle de la fin de la page, finalement, c'est un Christ très, très, très évanescent, qui apparaît, disparaît, vraiment le Christ de la foi, le Christ qui est très, très divin, très insaisissable. Donc souvent, dans les peintures, il est dessiné sans pied, vous voyez ce que je veux dire. C'est même plus un homme, c'est le Christ Dieu, le Christ compris, finalement. Ce qui me gêne toujours, en fait, de prier Jésus. Ce n'est pas du tout biblique. Et c'est, ça met l'accent complètement sur le côté Christ, qui serait une sorte d'hologramme, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'aurait pas vraiment de chair. Ce n'est pas une incarnation. C'est un pur esprit. Et donc là, il y a un cheminement entre les deux. Mais alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même... on parle de la même chose, quand même. C'est Jésus lui-même qui est là, quand même. Et donc ça, je crois que c'est intéressant. Dans le cheminement, si vous voulez, il y a d'abord un cheminement intellectuel qui est peut-être une réflexion sur ce qu'est le Christ et ce qui a été fait au cours des 2e, 3e, 4e siècles, dans un effort christologique formidable qui a débouché sur l'invention de la Trinité, ou en tout cas la formulation de cette pensée qui n'était pas non plus d'origine dans la Bible. Donc il y a cet effort de christologie qui n'est pas inintéressant du tout, si vous voulez, qui mérite, à mon avis, qu'on le fasse, en tout cas pour nous-mêmes, je crois. Vraiment de réfléchir sur ce qu'est le Christ, le Jésus de l'histoire, et puis le Christ pour nous, c'est intéressant, parce que on ne peut faire cet itinéraire, ce cheminement, enfin, en tout cas ce texte nous propose de découvrir le Christ en commençant par ce cheminement de réflexion, de christologie. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres gens qui ont d'autres modes de conversion, j'allais dire, de découverte du Christ. Il y a des gens qui sont très mystiques et qui viennent à la réflexion dans un deuxième temps, finalement, qui lisent le récit, qui vivent le récit dans l'autre sens. Peut-être comme les femmes au tombeau, qui commencent, bien que les femmes au tombeau, quand elles vont au tombeau, c'est aussi un exercice de mémoire, littéralement, dans le texte. Mais on connaît des gens qui sont mystiques et qui rencontrent le Christ... qui sentent une présence de Dieu à côté d'eux, qui sentent le Christ qui lui parle, qui est là. Et puis, qui au bout d'un certain temps se disent, mais en fait, faudrait quand même aller plus loin que ça. En tout cas, réfléchir là-dessus. Et qui, du coup, viennent peut-être vers les théologiens, vers l'Église, vers d'autres, discuter, chercher, creuser, lire la Bible. Qui font le récit dans un autre ordre, finalement. Mais ici, on nous dit que pour un certain nombre de gens, peut-être nous, ça nous fait faire un pas d'avoir cette réflexion christologique Et on part là de ce qui est objectif, dans un sens, un Jésus qui est un prophète puissant. Alors là, il y a une conversion à faire, sans doute. Peut-être pas pour tomber dans le Jésus hologramme, pur esprit, mais quelque chose qui tisse les deux entre eux, qui tisse cela, en tout cas. Voilà. C'est ce que dit la théologie classique quand il dit qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il y a des gens qui sont trop vers le vrai Dieu, à mon avis, et d'autres trop vers le vrai homme, voilà. Mais il y a une autre conversion, c'est nos autorités, voilà, les grands prêtres, nos chefs l'ont livré, condamné à mort. Et là, il y a une sorte, si vous voulez, d'aporie, tu disais, hein, pour Socrate, c'est-à-dire vraiment d'impasse, si vous voulez. Jésus est un prophète puissant, peut-être même il se demandait si ce n'était pas le Christ. Comment est-ce que les autorités, c'est-à-dire les spécialistes, les plus réputés dans la connaissance de la Bible, de la théologie, de la prière, du temple et tout le bazar, j'allais dire, comment est-ce qu'ils ont pu pas reconnaître le Christ et ce prophète? Et donc là, tout d'un coup, ils se rendent compte que finalement, la religion et l'institution n'est pas forcément si géniale que ça. Et pourtant, à la fin, si vous voulez, quand ils retournent vers les apôtres, dans un certain sens, ils se réconcilient avec quelque chose qui est de l'ordre du groupe, quelque chose qui est de l'ordre d'une mise en commun, donc d'une institution, dans le sens. Voilà. Donc là aussi, je crois qu'il y a peut-être un travail à faire aussi que font ses disciples pour comprendre quelle est la juste place et rôle de l'institution, de l'Église, de la religion par rapport au Christ, si vous voulez. Que ça peut être, mais on le sait bien, un groupe de personnes, c'est comme un grand paquebot, si vous voulez. Un groupe de personnes, c'est toujours moins génial que la plus géniale des personnes qui est dans le groupe. Ça n'y peut rien, c'est comme ça. Donc s'il y a une parole prophétique, l'institution va toujours dire « mais qu'est-ce qui nous casse les pieds ?» et machin, il va le gicler dehors. C'est normal, si vous voulez, parce que une institution, c'est comme un corps, un corps étranger, nouveau, qui dérange, ça dérange, c'est comme un caillou dans la chaussure, on veut l'enlever. Donc c'est bien ce qu'on voit, si vous voulez, dans cette institution. Il faut l'utiliser pour ce qu'elle vaut, mais il ne faut pas la prendre pour le Christ. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une juste place. C'est une place d'échange, c'est une place, bon, ils viennent témoigner à la fin dans l'institution, j'allais dire. C'est un lieu où on peut témoigner de sa foi. L'Église, c'est ça aussi. On a une expérience, on vient la mettre en commun avec les autres, en témoigner. C'est de l'humilité, c'est du service aussi. Et puis, l'Église, on va le voir, c'est l'occasion de relire la suite, mais les apôtres aussi ont une expérience, et il va y avoir une mise en commun de cette expérience. Et les femmes, dans un certain sens, elles avaient une expérience. Tout le monde se fiche de leur poire. Mais c'est normal, parce qu'elles sont... c'est elles le caillou dans la chaussure à ce moment-là. Mais quand même, ça fait son chemin. Donc, vous voyez, quand même, cette mise en commun des expériences, des témoignages, ça peut être odieux quand c'est comme les grandes autorités. C'est parfois, ça déraille, bien sûr. Mais quand même, c'est un lieu de mise en commun des expériences, c'est un lieu de témoignage, c'est un lieu... Hein, ben ça, c'est quand même à découvrir, hein, c'est quand même à garder, si vous voulez. Donc je crois que sur ces deux points, ils vont avoir un cheminement, et puis aussi en quoi ça les concerne personnellement. Et donc là, ça va être tout à fait autre chose. Ça va être une ouverture du cœur, ça va être comme un nourrissement, ça va être comme un... Une conversion de leur perspective, ça va être tout un tas de remises en cause, de remises en place de leur personne eux-mêmes. Donc je crois, changement de christologie, changement de conception par rapport à l'institution, par rapport aux autres, au groupe des autres, et puis changement de leur cheminement personnel.
Alors c'est sûr qu'il y a la conversion, hein, dans la conversion, c'est comme un changement de plateau sur un vélo. Quelquefois ça fait dérailler d'ailleurs, quand on change de vitesse, ça patine, ça, voilà. Alors, parce qu'il y a vraiment un changement de régime qu'ils doivent faire, et c'est assez fascinant, parce que quelquefois on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte? Quelle est l'expérience? Est-ce qu'on peut la dire avec des mots? Quel est le degré de vérité historique pour parler comme... mes élèves, quand ils me demandent qu'est-ce qu'il faut entendre, est-ce qu'on peut se faire des images de la scène? Et c'est très difficile. Et l'exemple que j'ai pris récemment, c'est une expérience que moi j'ai. Quand on apprend une nouvelle langue, et qu'on est obligé de s'en servir dans un autre pays. Vous savez, une langue, c'est un découpage du réel qui n'est pas le même. Une langue ne se superpose pas à une autre, ça c'est l'illusion mécaniste. Hein. Et en fait, il y a, voilà, il y a des trous, il y a des choses qui ne se disent pas de la même manière. Et il y a un peu un vertige lorsqu'on s'aperçoit dans une langue nouvelle, dans des situations nouvelles, il y a un peu un vertige de découvrir que le réel n'apparaît plus tout à fait pareil. Et alors les gens qui sont bilingues le savent, ils en jouent d'ailleurs. C'est une source de jouissance hein, de pouvoir comme ça changer de régime, justement changer de pignon, changer de plateau. Alors là, c'est une image très faible par rapport à ce qu'eux ont vécu. Mais vous voyez ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire que le découpage du réel n'est plus le même. Tout d'un coup, il y a un reparamétrage, il y a une reconfiguration, il y a tout est, voilà, c'est une nouvelle lumière qui, et leur vie n'a plus le même sens, et le mot amour, le mot paix, le mot joie, le mot, n'a plus le même sens. Le mot confiance, le mot vie, le mot destin, tout ça est complètement pulvérisé, reconfiguré. Et ça, je crois qu'on peut comprendre un peu ce que c'est. Alors bon, bien sûr, on a tous nos routines, nos, voilà, et donc on vit pas ça tous les jours. Mais enfin, il faut accepter que c'est possible. Comme ça, c'est assez fascinant. Alors, de fait, tu as raison. Je pense que ils ont la moitié de la vérité de l'identité de Jésus, prophète en puissance, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais il leur manque effectivement de comprendre ce qu'ils viennent de vivre là, ce que nous appelons la Pâque justement. Ils viennent de le vivre. Ce sont des pèlerins puisque considère que ça tombe au moment des fêtes de Pâques, ça c'est un autre dossier, mais de fait, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à intégrer la croix dans leur foi. Et au fond, c'est vrai de nous tous. Hein. La foi, on la confesse des lèvres, du bout des lèvres, mais c'est pas facile. Il y a des églises chrétiennes qui ont du mal. Il y a certaines églises évangéliques, finalement, elles parlent de Jésus puissant, Jésus qui va intervenir pour guérir, etc., qui ont du mal à parler de la foi. Jésus va me donner la prospérité, il va bénir ce que je fais, ma famille, etc. C'est une sorte de Jésus qui... Mais est-ce que la croix, comme sommet de l'incarnation, est vraiment intégrée? Pas forcément. Or, ici, c'est quand même une théologie de la croix, ici, enfin de la Pâque, en tout cas. Hein.
Oui, ne fallait-il pas que le Christ souffrit?
Oui.
C'est ça, en fait.
Voilà. Et c'est pour ça que moi, ça me fait penser... Alors, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, vous avez l'eunuque de la reine de... Vous connaissez ce texte de la reine d'Éthiopie. L'eunuque est sur son char et il lit le serviteur souffrant. Et il comprend rien. C'est exactement l'inverse de eux. Eux, ils ont une culture juive, ils connaissent les textes d'Isaïe, mais ils les ont oubliés. Et ils n'arrivent pas à faire le lien. Ils connaissent, ils ont une foi... abstraite comme nous, on apprend des choses au catéchisme et ça colle pas avec l'expérience qu'on a. Jusqu'au jour où, tac, ça colle. À 50 ans, à 70 ans, à 12 ans, quelquefois, tout d'un coup, quelque chose prend sens. Et on se dit, ah, mais oui, c'était ça que monsieur le curé appelait la Trinité, par exemple. Et donc, oui, mais ça, c'est magnifique quand les choses collent tout d'un coup. Et ici, ce sont des Juifs qui connaissent Isaïe, mais ils ne voient pas le rapport entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils connaissent. Et l'eunuque, c'est le contraire. C'est un païen, c'est l'ambassadeur ou le secrétaire de la reine d'Éthiopie. Et lui, il lit un texte et il ne comprend pas. Vous savez, c'est le passage, comme une brebis, il est conduit à l'abattoir. Il dit, mais alors, mais de qui on parle? Est-ce que c'est Isaïe qui parle de lui? Est-ce qu'il parle de... Et il tombe sur Philippe, l'apôtre Philippe, qui justement fait comme Jésus. Hein? C'est pour ça que ce texte est normatif. Il fait comme Jésus, il lui dit, voilà, ce que tu lis, eh bien, ça vient de se vivre dans l'histoire. Et il y a un parallèle entre les deux. Et quand même, les deux sont liés. Alors, il y a le deuil, oui, il fallait, mais c'est lié à un Messie souffrant, quand même, je pense, dans les deux cas, non?
Oui, je crois. Parce que là, explicitement, quand même, le questionnement au début, c'est se dire, mais comment c'est possible qu'il ait pu mourir et être crucifié? Donc là, il y a un questionnement sur comment un prophète puissant peut être le Christ, comment est-ce qu'il a pu mourir? Est-ce qu'il fallait ? Alors Jésus, là, ne fallait-il pas ? C'est une question, en fait. C'est pas si évident, si vous voulez, parce que quand on prend... est-ce qu'il fallait ? C'est-à-dire, est-ce que... Là, c'est pareil, le « il fallait », ça veut dire, est-ce que Dieu voulait, en fait, que le Christ meure ? Très discutable. Parce que dans Luc... Vous savez, Luc est spécialiste un peu de... Il insiste sur la conversion, en fait. C'est-à-dire sur cette liberté qui est donnée à l'homme de répondre oui ou de ne pas répondre à la grâce de Dieu, et voilà. Ou de répondre d'abord oui, et puis ensuite de répondre non, comme Judas. Le diable entra dans Judas, nous dit Luc. Et alors, dans la parabole des vignerons, il y a cette parabole très connue que raconte Jésus, donc, où... Dieu afferme une vigne à des vignerons, qui représentent sans doute l'humanité, enfin c'est relativement clair, et puis il envoie des prophètes, les uns après les autres, pour chercher le raisin, en fait. Et puis les vignerons disent, ben non, il n'y a rien à faire, ils maltraitent les prophètes les uns après les autres, ils les renvoient. Et à ce moment-là, il y a marqué le maître de la vigne, donc Dieu en général, quand même, dans ses paraboles, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben je vais envoyer mon fils, et dans l'évangile selon Luc, il y a marqué... Peut-être le respecteront-ils. Dans l'évangile selon Matthieu et dans Marc, il y a marqué « Je vais envoyer mon fils, ils le respecteront ». Donc là, non, la volonté de Dieu, c'était que le Jésus soit respecté et qu'il ne meure pas. Mais là, dans Luc, il y avait cette possibilité. Il y avait cette possibilité, ce 50-50 de Dieu qui dit ben, « Peut-être qu'ils vont le respecter ». Mais à ce moment-là, est-ce qu'il fallait ? Ben, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut que le Christ souffre de rejeter le Christ qui marche avec eux, finalement, peut-être aussi ? C'est une question peut-être vraiment ouverte. C'est pas forcément une question pédagogique à la Socrate. C'est peut-être une vraie question pour qui se la pose. En fait, à ce moment-là, ce serait aussi un peu socratique, mais la réponse n'est pas si évidente, en fait, hein, du tout. Alors, c'est vrai que dans la théologie... Bon, nous, a posteriori, on fait un lien avec Ésaïe 53. Est-ce qu'il faut le faire ? Peut-être oui. Peut-être oui, parce que si vous voulez, c'est un Messie, à ce moment-là, qui témoigne d'une faiblesse de Dieu, qui fait avancer les choses et qui apporte un salut dans l'accompagnement, finalement, et pas dans une toute-puissance, en faisant des prodiges, des machins et des trucs, comme le Jésus dont tu parlais tout à l'heure. On le prie bien assez fort, on est assez nombreux pour le prier avec assez de foi, et donc... ceux qui sont malades autour de nous, qui ont un cancer, je ne sais pas quoi, vont être guéris. Si on prie assez gentiment, assez bien, assez fort, si on donne de l'argent à l'église, peut-être aussi, tant qu'à faire.
À ces églises-là.
À ces églises-là. Parce que nous, on serait plus riches. On serait plus riches alors qu'on est pauvres. Mais donc, si vous voulez, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un Jésus qui accompagne. Et c'est bien ce qui arrive ici, si vous voulez. C'est ce qui manifeste. Il pourrait, avec un prodige, schling, il leur touche la tête, et puis ils deviennent tout d'un coup des gens qui comprennent tout, etc. Mais à la limite, c'est pas complètement impossible, parce que les animaux, dans un sens, à travers leur instinct, ils sont déjà programmés un certain nombre de choses. Quand on voit le chat chasser une mouche, il fait le tigre et le lion. Personne lui a appris, si vous voulez. Il est programmé pour avoir ce genre de comportement. Ou pour, j'ai vu un livre avec des races de chiens, il y a marqué telle race de chien, c'est des chiens, ils sont plutôt gentils, ils sont plutôt mal. Donc en fait, vous voyez, il y a des paramètres qui sont intégrés dans l'instinct. On pourrait se dire, Dieu, s'il est tout-puissant, magicien Schlenk, il va nous programmer à être bien gentils, ça serait hyper pratique. Mais sauf que Dieu ne marche pas comme ça. Il marche dans l'accompagnement, il n'est pas... mais nous-mêmes, on n'a pas envie de dresser nos enfants comme ça, si vous voulez. D'en faire des petits soldats qui sont... Non, on veut que ce soit des gens géniaux, si vous voulez. C'est-à-dire que la bonté ruisselle de leur propre moi, si vous voulez. Donc c'est un accompagnement, mais à ce moment-là, c'est forcément dans la faiblesse, cet accompagnement de Dieu en Christ. Et donc, est-ce qu'il fallait ? Ben oui, il fallait. Il fallait, c'est pas que Dieu voulait que Jésus-Christ, que Jésus de Nazareth meure sur la croix, c'est dégueulasse. Mais... Il voulait avoir l'idée d'un Messie qui fonctionne dans l'accompagnement, dans la douceur, dans la compassion, dans l'accompagnement même des mal foutus, des mal croyants, des trop croyants, des trop riches, des trop pauvres, et puis ceux qui sont au milieu. Et donc, Peut-être le respecteront-ils, c'était une possibilité. Et puis, quand même, Dieu avait une certaine expérience humaine, donc il devait bien s'attendre, parce que ça tourne vinaigre, cette affaire, si vous voulez, parce que, c'est ce que je disais pour le caillou dans la chaussure, hein. Sauf Bernadette Soubirous qui montait peut-être à Notre-Dame de la Garde avec des pois chiches dans les chaussures, hein, je ne sais pas. Sainte Thérèse peut-être, ou je ne sais pas qui, des grands saints qui sont prêts à souffrir volontairement. Normalement, on a un caillou dans la chaussure, on l'enlève, je veux dire, c'est normal. Donc c'est pareil, Jésus, caillou dans la chaussure.
En latin, c'est scrupulum, le caillou dans la chaussure, c'est ce qui a donné scrupule. Le scrupule, c'est ça. Les gens scrupuleux, c'est les gens qui ont toujours quelque chose qui les... Et donc, dont ils se confessent sans cesse. Donc, voilà. Le scrupule, c'est le caillou dans la chaussure. Scrupulum.
Donc, voilà. Normalement, le Jésus scrupule, il s'attendait bien à ce qu'il finisse quand même par le retirer, si vous voulez.
Ah oui, c'est un péché.
C'est assez logique. Ouais, voilà. Donc, est-ce qu'il fallait ? Ben non, il ne fallait pas. Mais voilà, c'était quand même assez logique. Voilà. C'est assez logique.
On va lire la fin. On peut même aller jusqu'au... Parce que, comme ça, vous verrez souvent... Dans le culte, on lit juste « Ils le reconnurent à l'infraction du pain, et tout joyeux, ils partirent. » Mais là, on va aller un peu plus loin. Anne, vous voulez bien lire ? Alors, c'est donc à partir de « Ils s'approchèrent du village, je pense. »
« Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit et il leur dit « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour. » Et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Puis il les emmena jusqu'à Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem, pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.
Et c'est la fin de l'évangile de Luc qui se termine au temple et qui commençait au temple, avec la révélation à Zacharie. Immédiatement après, mon cher Théophile, j'ai raconté dans un livre précédent, et c'est les Actes des Apôtres qui commencent. Avec une relation aussi de l'ascension. Parce que vous voyez que tout ça se passe dans la même journée. On est le jour de Pâques. Hein. Il y a eu l'apparition aux femmes, puis à Pierre, ce qui renforce d'ailleurs l'autorité de Pierre, évidemment. Et on peut y voir, évidemment, un fondement un peu apologétique, hein, du siège de Pierre, enfin de la primauté de Pierre.
et les écrits n'ont pas manqué de le faire. Puis il y a les disciples d'Emmaüs, puis ils reviennent, donc ils font les 10 km à rebours, hein, ils font du 5 à l'heure comme nous à peu près, dans les Cévennes un peu moins peut-être parce que ça monte. Donc ils reviennent et ils racontent ça aux disciples. Les disciples disent c'est bon, on sait, voilà. Et Jésus est là. Et il montre, non pas comme chez Jean, ses mains et son côté, mais il montre ses mains et ses pieds. Parce que, contrairement à certaines peintures, là, on voit ses pieds. Donc c'est vraiment un Jésus en chair et en os, c'est pas un Jésus justement hologramme, hein, et qui mange devant eux du poisson, tout ça, voilà. Tout ça le même jour. Et donc l'ascension n'est pas 40 jours après, mais l'ascension ici est le jour de Pâques. Alors c'est intéressant parce que l'ascension est vue comme une séparation, et c'est ça l'ascension, hein. C'est pas tellement le Cap Canaveral, c'est ce qui compte, c'est précisément la séparation, c'est-à-dire l'absence qui est en fait une présence. Ce que viennent de vivre les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire la non-vision qui est une vision plus profonde. Et dans les Actes des Apôtres, on raconte l'ascension un peu, c'est intéressant, c'est le même auteur, hein, mais un peu différemment, parce que là, il y a les 40 jours, etc. Donc vous voyez bien qu'on est plus dans le symbole que dans des documentaires ou des reportages. Alors, quand même, pour que mon évêque voit que je suis un collaborateur fidèle, j'ai envie de défendre un peu l'assistance, parce que tu disais le culte, etc. Bon, il n'y a pas que ça, les femmes, elles ont vu autrement. Mais quand même, alors, moi, je n'ai pas une vision légaliste de la pratique religieuse, mais j'ai une vision traditionnelle, c'est-à-dire que quand même, c'est une prescription de tradition. Certes, nous ne sommes plus sous la loi, mais la tradition, c'est quand même la transmission qui nous dit que le premier jour de la semaine, les disciples se réunissent et ils vivent la fraction du pain après avoir écouté les Écritures. Ce que certains d'entre nous font, je ne vais jamais vouer aux flammes éternelles quelqu'un qui n'aurait pas cette vision de la pratique dominicale, comme on dit, comme diraient les journalistes. Mais quand même, je crois qu'elle a un certain poids dans l'existence chrétienne, et que dans ce texte, la fraction du pain, après le partage de la parole, est quand même un lieu, alors peut-être pas unique effectivement, mais un lieu majeur, et un lieu où on est un peu sûr de ne pas être dans l'illusion subjective. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que au moment de la scène, ou de la messe, de l'Eucharistie, c'est pas nous qui sommes face à nos propres fantasmes, c'est pas nous qui nous auto-célébrons, nous vivons cette expérience, la même expérience que vivent les disciples d'Emmaüs. Et c'est là que nous pouvons être sûrs quand même que nous faisons une expérience de sa présence. Alors bien sûr, cette présence, on peut la vivre dans sa vie, et c'est fait pour ça. Le mot messe veut dire envoi d'ailleurs. Donc ce qui compte, c'est pas tellement le culte, c'est le fait d'être envoyé. Encore faut-il l'être. Et il faut donc vivre de temps en temps ce rassemblement communautaire qui manifeste la communion, qui manifeste que l'Église n'est pas un club de gens qui sont entre soi et qui pensent la même chose et qui lisent les mêmes livres. Non, c'est justement le pluralisme, au fond, c'est pas un effet du péché originel, c'est le pluralisme, il est... l'Église manifeste que la seule manière de faire entrer de l'espace commun et de la communion entre des gens aussi différents, c'est d'être rassemblé par quelqu'un. Moi, je trouve ça magnifique. Souvent, on s'étonne que l'Église soit à huée à dia, que les gens ne soient pas d'accord, etc. Bah, d'une certaine manière, c'est Jésus qui fait le rassemblement. Il rassemble des gens qui sont très différents. Il y a des riches, des pauvres, il y a des grands, des petits, des gens de toutes conditions sociales. Et d'une certaine manière, c'est normal. Et ce qui le signifie, ce qui le manifeste, c'est le rassemblement concret. Parce que s'il n'y a jamais de rassemblement concret ensemble dans un même lieu, pas forcément dans une église de la Renaissance, mais s'il n'y a pas ça de temps en temps, c'est... pour moi, il y a quelque chose qui manque. Mais je pense que tu es un peu d'accord.
Mais non, je suis un peu d'accord sur ce coup. Sauf que c'est peut-être une question de place et de degré. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis assez attaché pour ce qui est de la compréhension de la juste place de la religion de reprendre ce que Jésus disait du sabbat, qui est quand même le commandement, the commandement principal pour les Juifs. Dans le décalogue, c'est le bon gros commandement qui prend le plus de place. On était lapidés si on ne le faisait pas, etc. Jésus dit, et puis ça semble une excellente idée, comme tu dis, cette tradition du rassemblement hebdomadaire, comme disent les méharés.
C'est un petit chameau.
Bon, on finit de rigoler. Ça vient quand même de la synagogue, si vous voulez. Hein. Donc ce rassemblement où on lit l'écriture, on la discute, et on chante peut-être des psaumes, etc. Donc Jésus dit, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat, le plus fin du fin de la religion, qui est de laisser du temps pour Dieu dans sa semaine, dans sa journée, dans son temps, pour cultiver le spirituel, pour ne pas être dans la production sans cesse. Il y a 6 jours pour ça. Il y a un jour où on peut être dans cette recherche, cette ouverture, cette confiance à Dieu que, ne produisant pas, eh bien, nous continuons à être un être digne, et en particulier dans cette ouverture, dans cette verticalité, dans ce spirituel. Le sabbat est fait pour l'homme. Donc, c'est au service de l'homme. Et donc, je crois que c'est ça. Si vous voulez, cette fraction du pain, c'est au service de l'homme, c'est-à-dire c'est pour nourrir quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre de la communion avec Dieu. Voilà, c'est ça, c'est un exercice spirituel, si vous voulez, je pense. Moi, je le vois comme ça, enfin, c'est comme ça plutôt qu'on le voit. Et donc, je pense que, comme ici, c'est assez pécheur, même pas vraiment apôtre, qui s'éloignent de Jérusalem, qui ont perdu espérance, qui ont perdu foi, qui ne comprennent pas grand-chose au Christ, qui sont déçus par l'institution, la collectivité, déçus par le club des apôtres, qui sont là, dans leur chambre haute, complètement figés, arrêtés, morts de trouille. Ils disent, bon, allez, maintenant, c'est bon. Eh bien, le Christ se rend présent à ces gens-là, et c'est à eux qu'il donne le pain, finalement. Et ça, je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est un outil pour les pécheurs, pour nourrir, justement, pour nourrir leur cheminement, nourrir leur présence, et puis donner un signe du Christ vivant qui nous accompagne, être signe de grâce, signe de pardon. Et donc, oui, je crois que c'est important, hein, cette scène. Cela dit, cette communion, c'est, je crois, quelque chose d'important. Peut-être justement parce que c'est subjectif, à contrario de ce que tu disais. Mmh. Voilà. C'est qu'on le vit dans le... On le vit tel qu'on est, il y a des gens qui vont le vivre d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, c'est quand même assez subjectif, c'est assez mystérieux, c'est assez impalpable, il n'y a pas de règle absolue de voilà comment vous devez le vivre. Et puis si quelqu'un n'y est pas sensible, eh ben, qu'il soit sensible à autre chose, voilà, qu'il soit comme les femmes qui, dans un travail de mémoire, ou un autre, comme saint Paul, qui cherchait complètement autre chose, qui est simplement bouleversé par une expérience mystique sans la communion. Et puis voilà, il y en a un, ce serait un travail, comme les femmes, juste un travail de mémoire du Jésus de l'histoire, du mémorial. C'est comme ça qu'elles vont découvrir le Christ vivant. D'autres, ça sera par la religion, finalement, par l'Eucharistie, par la communion, par la Sainte Cène. Ben, c'est génial. C'était les plus pécheurs. Ben, c'est pour ça aussi, je crois. D'autres, saint Paul, non, est encore plus pécheur, ben, lui, ça sera dans la mystique. Voilà. C'est dans cette expérience bouleversante de l'irruption du Christ sur son chemin. Il aurait pu passer outre, comme Moïse aurait pu passer outre le buisson. Mais, bon, voilà, ces gens-là, voilà, ça s'est saisi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, si vous voulez, là, d'ailleurs, ils ne le mangent pas, le pain, si vous voulez, en fait. C'est pas marqué, en tout cas. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment dans... cette bénédiction, le pain qui est pris, qui est béni, qui est rompu et qui est donné. Et il percute finalement. Il percute peut-être, comme tu disais, ça m'a intéressé, j'avais pas relevé ça. C'est vraiment, tout est centré là sur la compréhension de la croix finalement, quand même. Ils comprennent là-dedans. Parce que quand Jésus dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est quoi le faire ceci en mémoire ? C'est peut-être, ben c'est ce qui est juste avant, c'est le corps donné, si vous voulez. Et donc là, ils comprennent finalement, sans même manger le pain, ils comprennent que le Christ est comme un pain qui est rompu pour qu'ils le mangent, qu'il leur soit donné finalement. Donné à tous, pas simplement à eux tout seuls, leur petit salut, leur petit paradis, leur machin. Et donc là, je crois qu'ils percutent tout d'un coup, ils comprennent, ils impriment, ils calculent. À quoi ça sert?
Oui, tout à fait. Et c'est, ouais. Je faisais le parallèle avec l'expérience de l'ONU. Parce que lui aussi, au terme d'une exégèse de l'écriture, finalement, demande un acte sacramentel. Enfin, pour
prendre baptême,
il demande le baptême, mais ici c'est l'Eucharistie. Et le baptême et l'Eucharistie, c'est pas toi qui me diras le contraire, c'est quand même les deux sacrements ou les deux actes communautaires les plus fondamentaux, les plus structurants. Et les deux sont liés à la croix, parce que le baptême est quand même. C'est pas seulement un baptême de conversion, c'est une plongée dans la mort du Christ. L'eau, c'est ce qui tue pour un hébreu, c'est ce qui étouffe. Donc, il faut passer par la mort avec lui pour revivre. Et l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi, c'est évidemment, c'est aussi le passage par la passion et la croix. Donc dans les deux cas. Quand même, l'écriture est cruciale, justement, pour reprendre le jeu de mots. Elle ouvre, et de ce point de vue, Luther n'avait pas complètement tort.
Sur ce coup.
C'est-à-dire que toute la théologie naturelle, rationnelle, qui nous dit que Dieu peut être découvert par la nature, par le monde, par. La quête psychologique, etc. Quand même, cette théologie naturelle, elle doit abdiquer à un moment devant cet innommable. Et de fait, les disciples qui ont vécu la croix ne peuvent pas. Enfin, y a une répulsion absolue, totale. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Voilà. Donc là, il y a Là, c'est la conversion mentale, existentielle, affective, et théologique, mystique, elle est absolue.
Mais les apôtres, c'est dans simplement l'attente et la prière, finalement, sans le baptême et sans la communion. Donc, je crois que voilà, il faut rester.
Ah, oui.
Et puis, si vous voulez, le baptême.
C'est la condition du salut.
Oui, voilà. Ouais. Ça peut être un cheminement important, et je pense que ça l'est, en fait. Ça l'est, c'est un plus. Ou alors, bon, si on n'est pas sensible, on n'est pas sensible, c'est pas grave non plus, il y a d'autres cheminements, mais. Et je crois que là, tu dis tradition, moi je dirais expérience. C'est comme si, vous voulez, on prend un guide vert pour aller, je sais pas, visiter Paris, et on dit, écoutez, ce serait quand même dommage de rater, d'aller visiter, je sais pas quoi, le Pont des Arts, ou d'aller visiter le Rubens à Saint-Eustache. Le catering aussi, non, c'est ça,
oui,
c'est revenu, donc ça vaut le coup. Mais donc, si vous voulez, bon, le guide vert va dire faut aller là. Bon, je veux dire, on n'en sait rien. Si on cherche au hasard dans une ville comme Paris, on va passer à côté de merveilles. Donc là, c'est l'expérience de génération en génération. On nous dit que se rassembler le dimanche pour lire les Écritures, pour ces sortes de cérémonies, on ne comprend pas très bien comment ça marche, mais de génération en génération, on a remarqué qu'il y a un grand nombre de gens pour qui ça aide à se mettre en route comme nos braves pèlerins d'Emmaüs. Alors on ne peut pas dire ensuite, je veux dire, c'est comme ça, c'est un fait d'expérience pour un grand nombre de gens. Si quelqu'un peut se débrouiller sans, je veux dire, c'est génial, alléluia. Mais en attendant.
Oui, et puis il y a cette notion, enfin j'ai l'impression que je vais faire retomber ton élan, mais la notion de devoir, par exemple, est souvent mal comprise. Je le dis là, comme héritier d'une culture catholique, d'une mémoire catholique. Évidemment, dans ma famille, la messe dominicale était vue comme un devoir. Et notre société postmoderne a tendance à ricaner. Mais le devoir, il faut bien comprendre que ce n'est pas un devoir face à une loi. Alors évidemment, l'Église est héritière de... L'Église romaine est héritière d'une mémoire juridique, hein, on l'a souvent dit au cours de ces rencontres, mais le devoir, c'est aussi le devoir de l'amitié, de l'amour, de la fidélité. La fidélité à quelqu'un peut passer par des offices, comme disait Cicéron, hein, des officiis. Hein, le traducteur a habité juste au-dessus, c'était le père Tétard qui a traduit le traité des devoirs, c'est-à-dire que l'amitié peut créer effectivement des liens qui ne sont pas des pièges, qui ne sont pas des fils à la patte, qui sont des injonctions intérieures. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai pris un peu de messe, là, un quart d'heure de messe, ça m'a fait du bien, etc. » Alors moi, je trouve ça très gentil, c'est super, parce que, mais on voit bien qu'ils sont dans une logique individuelle, quoi, un peu de thérapie. Ça leur a fait. Et encore un ami m'a dit ça, « Je suis venu à ta messe, ça m'a fait du bien. » Alors, et dans ma famille, c'était un peu la mode dans les années 70-80. Alors, il ne fallait plus dire qu'on allait à la messe parce que c'était les curés qui disaient qu'il fallait y aller. Mais il fallait pour se faire du bien. Donc, une sorte de confort un peu raffiné. Mais, bon. Alors, tant mieux si ça fait du bien, c'est sûr. Je crois que ça fait un bien tel, d'ailleurs, qu'il n'est pas toujours sensible. Mais il y a aussi ces dimensions d'enracinement, dans le temps, dans la fidélité, dans le, voilà. Alors c'est des valeurs un peu à contre-courant, donc voilà. Mais quelquefois c'est bon.
Bah moi,
mais non, je
non, non, mais moi je veux bien. Hein. Non, non, mais moi, non, non, mais moi je veux bien, si vous voulez. Mais je crois que quelque part ça marche si on est quand même dans un élan de sincérité. Donc, et puis en fait, voilà. Je crois qu'on n'est pas tous sur le même rythme. Donc moi j'encourage les gens à se dire voilà quel rythme je pense que je me fixe pour moi-même tel rythme. On se dit ben, je veux aller à la messe ou au culte mettons une fois par mois parce que moi ça correspond à mon rythme. Il faut aussi que j'aille m'occuper de mes enfants et puis que j'aime bien la course à pied, j'ai que le dimanche, voilà, enfin bref, qu'on se fixe un rythme parce que et ça on peut se fixer des devoirs pour soi-même et ça c'est quand même assez bon parce que comme ça on laisse pas flotter les rubans et je veux dire parce que c'est comme pour l'exercice physique. Moins on fait de sport, moins on est en forme, moins on est en forme, moins on a envie d'en faire. Et donc, je veux dire, la pente est glissante. Donc, la première sincérité, le premier élan n'est pas forcément bon conseilleur parce qu'au contraire, on va dans une pente divergente. Alors que si on se fixe des objectifs pour soi-même, si c'est l'Église qui vous dit, voilà, il faut aller tous les dimanches, sinon vous allez être grillé en enfer, je pense qu'on ne prêche pas la grâce.
C'est la même marque.
Si on dit, écoutez, c'est une assez bonne idée, mes enfants, par exemple, quand on a un enfant, on peut dire, écoute, tu vas aller au caté parce que c'est notre choix, point. Après, si tu n'es pas d'accord, tu le feras, tu feras pas ta communion ou tu feras pas ta confirmation, mais pour l'instant, ça fait partie de l'éducation, c'est obligatoire. Bon, quand on est enfant, je comprends, c'est, voilà, ça fait partie de l'éducation, c'est les parents qui choisissent. Mais ensuite, quand on est grand, on peut se fixer pour soi-même des objectifs et donc se fixer des devoirs. De se dire, moi, je choisis de vivre comme ça. Bon, ensuite, si on n'arrive pas à tenir, on révise ses objectifs, mais au moins, on maîtrise le truc. Et donc, je suis d'accord avec tes devoirs, finalement. Il faut s'en fixer, il faut les choisir. Et quand la tradition nous dit, ou l'habitude, l'expérience des générations nous dit, voilà, c'est une bonne idée, ben, on peut déjà dire, tiens, ils nous disent que c'est une bonne idée. Moi, on peut écouter, ensuite on peut faire autrement, on peut adapter, aménager, et rester souple sur les genoux, vous voyez, pour pouvoir passer les obstacles, adapter à ce qu'on aime, mais bon, on peut honorer, je suis d'accord, ce qu'a toujours enseigné l'Église, c'est déjà un bon point de départ.
Voilà, alors autre devoir, la dernière séance du groupe d'écuménique biblique, en juin, en mai, c'est sur la petite feuille, oui, le 15 mai, ça va venir vite, heureux celui qui a cru, donc c'est Thomas. Alors de même que dans les disciples d'Emmaüs, ben, il y a le disciple anonyme qui est un peu nous, parce que ce texte est très engageant, ben, ici Thomas c'est un peu nous aussi. Voilà. Bonne soirée.
Bon retour, merci.